Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité Dimanche sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'Humanité Dimanche. Bonjour Patrick Le Yarrick.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Humanité et votre édito a pour titre « Bridgestone, gémissement politique et capital ». Vous évoquez cette semaine les licenciements de Bridgestone sur son site de Béthune. Pourquoi dites-vous qu'ils étaient prémédités ?
On sait qu'il n'y a eu aucun investissement sur ce site depuis très longtemps, alors que ceci était demandé par les élus locaux, par les élus du personnel, représentant le personnel, alors qu'il y avait des investissements dans d'autres endroits, notamment en Pologne et en Hongrie. Donc il y a bien la volonté de restructurer le groupe pour délocaliser des activités de France vers l'Europe orientale dans le cadre de la mise en concurrence des salariés pour baisser les coûts de production tout en maintenant les mêmes prix de vente des pneus pour augmenter les profits.
Vous rappelez que certains élus qui expriment leur compassion, ce sont les mêmes qui ont signé des accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon.
Oui, ça c'est ma réflexion. Il y a un certain nombre de gens qu'on voit pleurnicher devant les écrans de télévision. Il est bien temps. Mais depuis qu'on a signé le traité de libre-échange avec le Japon, que s'est-il passé? On a quasiment scindé le groupe Renault-Nissan, et Nissan reprend son autonomie avec les épisodes qu'on a connus il y a quelques mois de cela. On est en train de fermer les usines Smart dans l'est de la France. Voici maintenant que, avec Bridgestone, on est en train de restructurer l'industrie du pneu au sein du groupe japonais. Donc il y a là quelque chose qui a à voir avec le traité de libre-échange. Mais il y a mieux. Les traités européens eux-mêmes n'empêchent pas les délocalisations. Au contraire, ils encouragent les délocalisations sous le couvert de ce vocable de concurrence libre et non faussée. Mais dès lors qu'on est à la fois dans cette concurrence libre et dans la libre circulation des capitaux, il est bien évident que les entreprises multinationales déplacent au gré de l'appât du gain leurs entreprises dans les zones où d'abord des gouvernements ne le font plus participer au bien commun et surtout pour faire pression sur la rémunération du travail.
Que peuvent encore faire les dirigeants français dans un pays où justement la souveraineté est déléguée aux institutions européennes ?
Elle est même plus déléguée aux institutions européennes. La souveraineté, ça devient la souveraineté selon le bon vouloir des grandes entreprises multinationales, puisque c'est une Europe du grand large. On est le seul continent comme cela au monde, c'est-à-dire dès lors qu'on a écrit dans nos propres traités qu'il y a une liberté totale de circulation des capitaux, qu'il n'y a plus de droit d'âne, aucune taxation aux frontières, on aboutit forcément à ça. Il y a une chose qui serait possible de faire aujourd'hui, c'est au nom de l'environnement, pourquoi ne pas mettre aux frontières extérieures une taxe carbone? Ce serait conforme à la conférence climat, ce qui n'est évidemment dans aucun traité, mais ce serait un acte politique qui viserait à mettre des limites aujourd'hui à cette liberté totale de circulation des capitaux.
Dans une Union européenne libérale par nature qui pose la concurrence entre les salariés européens, le Frexit n'est-il pas la seule et unique solution pour reprendre la main sur ces sujets économiques ? Pourquoi laisser cette idée à l'extrême droite finalement ?
Non, mais la sortie de l'Union européenne, qui est un retour à un nationalisme effréné, ne peut se faire qu'en compressant durablement les salaires ouvriers, les salaires ouvriers en général. Parce que chaque fois qu'il y a eu des périodes de nationalisme, et ici ce serait un nationalisme pour le capitalisme, dans le cadre de cette même compétition internationale, on fermerait les frontières, donc on se priverait de la possibilité aussi de coopération et d'échanger avec d'autres pays, y compris économiquement, donc on réduirait à néant des pans entiers de notre industrie, et surtout, on pressurerait encore plus les salaires ouvriers. On serait dans une guerre économique renforcée. Ce qu'il faut faire, ce n'est ni l'Europe ultralibérale actuelle, ni le nationalisme. Il faut inventer un système qui transformerait l'actuelle Union européenne en une nouvelle Union qui serait une union des nations et des peuples qui seraient associés, libres, et qui se donnerait la possibilité de faire sur des projets, sur des sujets, non pas à 27, mais si ça peut se faire à 3, 4 dans un premier temps, à 5, à 6 par la suite. C'est-à-dire il faudrait une Europe qui respecte la volonté populaire et les souverainetés populaires, qui se donne comme objectif le progrès social et le progrès économique, et qui gérerait autrement la monnaie unique. Parce que la monnaie unique aujourd'hui, elle est un facteur tellement rigide que les fluctuations monétaires qui existaient et quand il y avait des monnaies nationales, aujourd'hui, ça se gère à la prise de stock. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui en participent. Tout autre projet d'Europe progressiste, d'Europe démocratique, d'Europe sociale, d'Europe écologique, qu'il faut inventer. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et en transformant notamment cette gestion de la monnaie unique, qui devrait devenir, selon moi, une monnaie commune, la possibilité de flexibilité sur la valeur de la monnaie selon les pays, et non pas faire comme on fait aujourd'hui, régler cela par le chômage et la pression sur les salaires et la déflation.
Merci Patrick Le Yarrick. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Humanité et votre édito cette semaine, Bridgestone, gémissement politique et capital.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité Dimanche sur Radio Orient.